Et nous revoilà pour le film Star Wars, Les Derniers Jedi, qui est sorti la semaine dernière et qui, je crois, a fait le deuxième meilleur lancement de l'histoire sur un premier week-end.
Ouais, ça va, enfin, les scores sont...
Un peu meilleur que sur Justice League.
Ah, là, je pense que Warner, quand même, a du mal. S'il veut garder l'air molaire, il faut qu'il serre les dents. Hein.
Ouais, enfin bon, personne ne pensait que même avec la meilleure des chances, on puisse espérer que Star Wars soit battu par Justice League.
Écoute, hein, tu sais, avec la logique à la chaîne Claude Duss, hein, ouais, hein. Hein, sur un malentendu.
Ouais, ouais, sur un malentendu. Ce film revient donc évidemment comme une suite au numéro 7 qu'on avait vu et apprécié quand même, mais qui avait des gros défauts. Voilà.
Bah, c'était quand même, on va être clair, c'était quand même une copie carbone du 4. Hein.
Et alors, autant sur la Justice League, on nous a entendu sur les défauts qu'on avait trouvés à Superman Batman. Ça, ils en ont tenu compte, ça n'a pas fait donner le bon résultat, mais ils en ont tenu compte. Autant là, on n'est plus dans la copie carbone. Et ça fait de ce film un film original, ce qui est quand même quelque chose auquel on ne s'attendait pas.
C'est vrai.
Voilà. Donc, on retrouve évidemment les personnages du premier film, c'est-à-dire Oscar Isaac en Poe Dameron, John Boyega en Finn et Daisy Ridley en Rey. Et évidemment, Adam Driver en Kylo Ren. Et pour la suite, effectivement, on a deux, trois surprises qui se profilent. Et voilà. Alors, que dire effectivement qu'on a peu, finalement, de nouveaux personnages dans ce film, ce qui déjà est assez appréciable.
Est-ce que c'était nécessaire ?
Ben non, justement. Alors, voilà. Alors, il y a Kelly Marie Tran qui va intervenir dans le film. Et alors, ce qui est étonnant, du coup, c'est que après nous avoir rajouté des femmes, des noirs, des vieux dans Star Wars, chose qu'on n'avait pas jusqu'ici, on nous a inventé une petite asiatique un peu boulotte. Voilà. Qui est mignonne. Hein. C'est vrai que quand on la voit en robe de soirée, on se dit qu'ils l'ont bien enlaidie pour le film. Hein, et que la combinaison d'agents techniques, ça n'arrange personne. Mais voilà, on a quand même quelque chose qui a de la gueule. Voilà. C'est un film qui marche avec des vraies créations. Visuellement, il est très réussi, il y a de bonnes choses. Mmh. Bon, il y a des acteurs qui en font trop, qui sont un peu chiants. Hein, voilà. Benicio Del Toro qui joue dedans et...
Ben Benicio Del Toro, s'il n'est pas tenu, quand il part en roue libre, ça peut être quand même...
Ah ben là, il est en roue libre.
Bon, donc effectivement...
Il cabotine à mort, il en fait trop. C'est le seul acteur qui m'a insupporté dans le film. Voilà.
Quand même.
Voilà. Il y a des gens comme ça, quand on les voit, on dit « Oui, non, pourquoi pas, mais... » Et puis il y en a, on dit « Ah oui, quand même. Ah ouais, non, c'est... » On a des personnages qui, quand on les voit, on dit fallait oser, ils l'ont osé et ben ça fonctionne. Donc voilà, concrètement, que dire de ce film sans vous spoiler? Bon, le but c'est pas non plus de raconter à ceux dont Stéphane qui l'ont pas vu tout ce qu'il y a à voir.
Non, mais tu peux y aller. Enfin, après, plutôt les éditeurs, moi, le spoil ne me gêne pas.
On s'en doute un peu. C'était le concept depuis le départ. Mark Hamill revient à Luke Skywalker. Et Luke Skywalker va devoir former Rey pour qu'elle devienne une Jedi. Jusque-là, on le sait, ça va effectivement participer à. Au film, et c'est quand même l'intrigue principale, sauf qu'on va dire qu'il y a trois intrigues parallèles dans ce film. On est vraiment sur un film en milieu de trilogie, c'est-à-dire qu'effectivement on ne doit pas atteindre le bouquet final, et donc on va séparer les membres en trois groupes. On va donc avoir Finn et Rose donc d'un côté. On va avoir Mark Hamill, donc Luke Skywalker, et Rey d'un deuxième. Mmh. Et puis, on va voir Carrie Fisher qui va être toujours à la tête de la Renaissance, de la Résistance avec Poe Dameron. Voilà. On a trois groupes dans le film. Voilà. Ce qui est intéressant quand même dans ce film, c'est qu'on est sur des personnages qui sont vraiment travaillés. Même Adam Driver, qui n'était pas très efficace dans le rôle de Kylo Ren dans le premier tome.
Prendre l'épaisseur.
Alors non, il est toujours maigre comme un clou, mais ils lui ont mis un costume rembourré.
Oui, mais enfin, quand je dis épaisseur sur le personnage, pas le, pas sa carrure. Voilà.
Il est toujours laid comme une bite.
Oui, c'est j'aime bien l'expression.
Voilà. Et en plus, ils se sont rendus compte que déjà, quand on n'est pas un grand acteur, le fait d'avoir un masque, c'est gênant.
Ben, c'est pas toujours évident, gênant. Voilà. Hein.
Donc, du coup, il casse son masque en début de film et il va être à visage découvert, ce qui va apporter quelque chose au personnage. Voilà. Le petit moins, c'est que quand on regarde les designs préparatoires qui avaient été faits pour le film, il était prévu de lui raser le crâne.
Oui, donc là, il y avait une, ça donnait une apparence qui était quasiment celle de, enfin, une filiation avec Dark Vador, quoi.
Ah bah de toute façon, la filiation avec Dark Vador, elle est voulue depuis le début.
Oui, non, dès le départ. Mais là, avec, il y aurait une filiation, enfin, ça renforçait le côté physique, ressemblance physique.
Voilà, mais il est beaucoup moins défiguré que son grand-père, quand même. Voilà. Là où effectivement je pense qu'ils s'en sont rendus compte, c'est que lui raser le crâne, ça voulait dire que ça allait coûter cher en élastique pour lui recoller les oreilles. Parce que quand même, s'il a les cheveux aussi longs, c'est pas sans raison. Enfin,
Tu mets un peu de super glue et tu.
Non, mais sans déconner, hein, il a les oreilles de Philippe Gildas. Donc faut faire quelque chose. On lui laisse les cheveux longs, c'est sa nature. Voilà. C'est pas un problème, mais bon, effectivement, le personnage est bon dans le film. Les points forts pour moi sur tout le film, c'est justement de jouer sur la dualité des personnages, où on va nous les montrer à la fois bons et mauvais, et il va y avoir des retournements de situation sur énormément de personnages dans le film, voilà, qui vont se montrer...
Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que
oui,
effectivement,
c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, à tout bout de champ, effectivement, on ne s'attend pas forcément à la manière dont va se diriger le film pendant toute la série.
Bon, tant mieux.
Des personnages qu'on pense antipathiques s'avèrent être efficaces. Des personnages qu'on pense efficaces vont se, enfin efficaces positifs vont se transformer en boulets. Voilà, on va voir vraiment des retournements de situation. Et ça, effectivement, c'est un point ultra positif. On n'est pas dans un film linéaire dont on connaissait la fin avant le début, contrairement à ce qui était dans l'épisode 7.
Bah, c'est déjà quand même une bonne chose.
Voilà. Et rien que pour ça, le scénario est bon. Et puis, surtout, si comme moi, vous avez adoré les Ewoks, vous allez adorer ce film.
Ah, avec les espèces de trucs là, les porgs là.
Où est les petits pingouins poilus ? C'est tout mignon, c'est tout ridicule. Mais qu'est-ce qu'on va vendre comme pluche ?
Ouais, il n'y en a pas Chewbacca là qui ne s'est pas vengé en essayant d'en bouffer un, non ?
Si, mais l'autre il lui fait des petits yeux de. C'est mamie. Mais Chewbacca il est obligé de hurler pour que l'autre il se barre, pour lui faire peur, pour réussir à manger en paix. Voilà.
Non, mais.
C'est toujours compliqué de manger comme les ancêtres devant leur progéniture.
Ça fait un bon petit traumatisme. Après, bon, c'est le dip est réglé comme ça.
Mais voilà. Donc, on a ce complexe des Ewoks. Alors, à travers eux, à travers les gardiennes de l'île de Luke Skywalker, qui sont juste des personnages, des personnes qui font le ménage. Voilà. Qui sont des espèces d'êtres bizarres qui ressemblent à des crapauds. Où il n'y a que des femmes, évidemment, parce que comme ils font le ménage et l'entretien, il faut être un peu sexiste quand même, donc voilà. Et qui définitivement détesterait parce que faut un peu le souk et que le temps qu'elle s'entraîne, elle n'est pas tout à fait efficace. Ces personnages ne servent à rien et ils ne vendront même pas des puces, contrairement aux Borg ou voilà.
Les Borg, c'est chez Star Trek.
Voilà.
Pas le même Star.
Ouais. En plus, on s'en fout, enfin, leur nom, clairement. À part pour les vendre en puce quand les gamins vont vous en demander. Alors pour Noël, c'est un peu tard. Mais voilà. Et puis, on aura également plus tard des chiens de glace qui sont. Voilà. Il y a effectivement plein de ces races de ces races à vendre des puces. Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui manquait parce que ils avaient bien essayé dans l'épisode 1, mais ça s'était tellement retourné contre eux avec Jar Jar Binks qu'ils n'avaient pas trop osé par la suite.
Pas faux. Jar Jar Binks, c'était quand même complètement insupportable. Autant les Ewoks c'était mignon, bon, même si ils m'ont gonflé pour dire ce qu'il est. Mais oui, Jar Jar Binks, là, c'était le truc. On espérait qu'une chose qui passe, soit se trucider par un destroyer. Enfin, bon, mais non, jamais, hélas. Ouais.
Donc du coup, effectivement, c'est un film qui amène à un film 3, sachant qu'il y a quand même de lourdes pertes aussi dans le film. Après, tu vas me dire, c'est un film de résistance. Dans tous les films du genre, on tue la moitié des personnes et puis il y en a deux fois plus au début du film suivant.
Il faut voir. Après, effectivement, il faut bien aussi qu'il y ait un petit contexte dramatique, puisqu'on est toujours au milieu d'une trilogie.
Puis bon, l'important dans ces cas-là, c'est que quand l'Empire arrive à détruire la moitié des personnages, il reste toujours les plus importants qui sont en vie. Sauf s'ils n'ont pas voulu renégocier leur cachet.
C'est pas faux.
Voilà. Donc, on va effectivement quand même avoir des choses qui vont se mettre en place. On sent que on a envie d'aller voir le 9 plus qu'on avait envie d'aller voir le 8 en voyant le 7. Ce qui déjà est un point positif.
Je suis d'accord.
Voilà. Et voilà. Non, c'est un bon film, un bon divertissement. Alors, évidemment, on est dans tous les poncifs de Star Wars, hein.
Bah, de toute façon, le Star Wars, c'est quand même aussi un univers qui est un petit peu balisé. Mais s'ils arrivent déjà quand même à se sortir...
On n'aura pas de scène de bar.
Quel dommage.
On a une scène de casino.
Ah, bien.
Voilà. Il y a vraiment des choses, effectivement. On est cette fois-ci dans un film qui va oser ce qu'il n'avait pas osé dans le précédent, qui va oser sortir... du trop conformisme, voilà. Et ça explique effectivement des critiques qui sont ambivalentes, on va dire. Mais le film est quand même réussi. La réalisation de Rian Johnson est bonne. On a vraiment, même dans les scènes de combat, des choses qui sont un vrai souffle épique, beaucoup plus que de le 1. Et puis,
Dans le 7.
Et puis, il y a aussi un truc qui est tout con, hein, mais c'est que quand les gentils sont pas complètement gentils et les méchants sont pas totalement méchants, eh ben, on arrive à avoir un film qui intrigue plus et qui, du coup, va amener à des choses...
Ce qui est intéressant, c'est aussi, effectivement, qu'on tombe un peu sur... qu'on n'est pas sur du manichéisme pur et dur.
Non, c'est clair. Et voilà, et du coup... le personnage de Kylo Ren gagne en épaisseur, le personnage effectivement de Rey gagne en épaisseur, et ça tombe bien parce qu'ils devront encore s'affronter à des menaces dans les épisodes suivants. Donc on sait bien que bon, ce sont quand même les deux personnages qui doivent porter cette trilogie. Donc on ne peut pas les laisser se saborder d'emblée. Et autant l'un comme l'autre était lisse dans l'épisode 7, autant ça devient des vrais personnages dans l'épisode 8, et c'est quand même ce qui était important. Voilà.
Après, est-ce que par rapport aux évolutions des personnages, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer un peu le changement de génération ?
Alors oui. Non, justement, c'est très bien joué. C'est-à-dire qu'effectivement, sur Kylo Ren, par exemple, que accessoirement, on appelle à plusieurs reprises dans le film Ben Solo.
Oui, parce que c'est effectivement voilà. son vrai nom.
Et c'est vrai que le fait de jouer sur les deux noms montre aussi le fait que la force est encore en lui, qu'il n'y a pas que le côté obscur.
Et comme le côté obscur est une partie de la force, une composante de la force.
Voilà. Et de même que Rey ne va pas se montrer que positive. Donc on voit effectivement que l'un comme l'autre peuvent être borderline. Et c'est voilà, on est quand même dans, on a quitté ce côté justement trop manichéen, et voilà. Et donc c'est un film qui est très prometteur pour la suite. Et on va attendre avec impatience effectivement la suite. Il y a des petites caméos effectivement de personnages qu'on s'attendait pas à voir qui font plaisir. Il y a beaucoup de choses. Il y a tous les éléments pour qu'un fan de Star Wars s'y retrouve. Et ça, on peut pas dire, ça fait... on a le souffle épique. On retrouve effectivement l'envie de le voir et on se retrouve effectivement dans une logique plus de la trilogie 4, 5, 6 que de la 1, 2, 3.
Voilà. Tant mieux.
Surtout que, bon, après, si on est tout à fait honnête, on a quand même un gros, gros problème sur l'épisode 4, l'épisode 7, qui était quand même un remake des précédents. Là, on est vraiment dans une évolution et on voit l'épaisseur qu'ont pris les personnages entre-temps. Alors que, bon, on avait un peu l'impression sur l'épisode 7 que il avait fallu faire la part belle uniquement à Harrison Ford et que la suite n'était pas forcément aussi bien préparée que là. Voilà.
D'accord, bon, donc c'est une bonne...
On se dit que Mark Hamill a été moins casse-couille sur le scénario que l'a été Harrison Ford sur le précédent.
Pourtant, il y a eu quand même des échos, quelques échos sur le... comment dire, de désaccord entre le réalisateur et l'acteur.
Oui, ouais, non, mais il y en a toujours. Hein, voilà, mais enfin, ça reste quand même un peu des stars. Et puis bon.
Oui, non, mais ce qui nous a fait rire, c'était sur Mark Hamill qui disait pour le set, je me suis préparé, j'ai été obligé de faire un régime, de l'exercice, donc en faire. Pour moi, c'est un supplice. Et pour apparaître quoi sur une scène?
Ouais, ah ouais, ça.
J'ai perdu 24 kilos, ma femme était ravie.
Voilà. En tout cas, effectivement, bon, la complexité aujourd'hui aussi sur l'épisode 9, ça va être de faire un épisode 9 sans Carrie Fisher.
Ça va être effectivement peut-être le plus complexe.
Ce qui n'était pas prévu au départ.
Ouais, mais ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas tout à fait les... comment dire, hein, tu peux pas tout à fait prévoir ça.
Alors, il y a juste un moment, c'est qu'on se dit que, bon, ils savent faire des personnages en images de synthèse, et qu'il y avait peut-être moyen de redoubler avec une actrice, effectivement, pour la faire mourir à la fin. Après, je pense que c'était délicat, quand même, par rapport à l'actrice et par rapport à sa famille de la faire mourir dans le film, même si c'est effectivement...
Il aurait pu y avoir une logique aussi par rapport au caractère du personnage.
Oui.
Et de l'engagement qu'avaient eu ses parents.
Oui, mais voilà, surtout que bon...
Ben et Organa Solo. Voilà. Enfin, les Organa, quoi.
Voilà. Après, voilà. Encore une fois, à voir effectivement comment ils botteront en touche sur le film 9 pour nous dire qu'elle n'est plus là. Mais elle le fait bien. Enfin, elle est tout à fait à la hauteur du film. Et effectivement, bah, c'était sa dernière prestation. Bon, y a un hommage évidemment dans le générique de fin. Mais voilà. Donc, elle aussi gagne en profondeur. Puis elle aussi, elle a dû refaire un régime entre le 7 et le 8. Hein. Parce que, bon. Elle n'a pas retrouvé une taille de jeune fille, hein, mais déjà dans l'épisode 4, elle ne l'avait pas. Donc, si elle porte une robe de bure dans l'épisode 4, c'est pas sans raison. Voilà. Elle avait aussi perdu du poids pour mettre le maillot de bain en métal. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, ça reste un bon film qui est largement au-dessus du niveau du 7. Et même moi qui avais bien aimé le... À ma grande surprise, le Rogue One, je le place au-dessus du Rogue One.
Ah, quand même.
Voilà.
Ouais, donc, parce que Rogue One, il y avait quand même aussi un souffle épique. Hein,
Il y avait un souffle épique. Il y avait quand même une surprise à la fin du Rogue One, qui était que tout le monde meurt à la fin.
Oui, et puis derrière, enfin, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, justement, dans le Rogue One, c'était qu'on avait une vision de la rébellion qui n'était pas manichéenne, en disant mais attends, on est en guerre, on n'est pas forcément meilleur que le camp en face, et on fait nous-mêmes des saloperies.
Ah, mais il y a même des engueulades entre les personnages du film sur des actions militaires qui ont été faites notamment au début du film, où en fin de compte la question c'est est-ce qu'une victoire avec autant de morts est une victoire.
Ah oui,
voilà.
Ça soulève des
questions. si je vous ai dit de vous replier, effectivement, on a gagné quelque chose, mais voilà, il y a un danger. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'on voit que la survie à long terme de la résistance est vraiment mise à mal.